Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
J'aimerais que nous fassions deux courtes lectures que vous connaissez parce que vous avez lu et relu ces textes, mais j'aimerais justement conduire notre réflexion sur un phénomène qui est un phénomène humain, dans ce sens que ça fait partie de notre humanité, et je pense qu'il y a quand même une correspondance ou une implication dans le corps de Christ, dans l'Église. C'est l'insensibilité et la sensibilité, voire même l'hypersensibilité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous demanderai de patienter, il va y avoir une introduction à ce message, parce que je vais le mettre quand même sur un fondement solide de réflexion, et puis ensuite, nous verrons les applications spirituelles. Voilà, j'explique un petit peu les choses. C'est un petit peu mon style de faire les choses comme ça pour que nous comprenions bien. Parce que je crois que il y a quand même beaucoup de choses dont nous avons besoin d'être enseignés. Et s'il y a un grand problème dans le monde, dans l'humanité, c'est le message de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, le message de la douleur? Alors, on va voir ça. Premier texte, Marc. Marc, chapitre 1er, verset 40-42. Et comme nous sommes tous voués à connaître la douleur, on l'a connue, on la connaît, on la connaîtra, personne n'y échappe. Mais il y a un formidable espoir de la part du Seigneur pour ceux qui souffrent. Alors ça commence comme cela. Un lépreux, Marc chapitre 1er verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà, première lecture. Deuxième lecture, s'il vous plaît, nous allons la faire dans Job, chapitre 2, verset 7, aussi bref que précédemment. Job, chapitre 2, verset 7, « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. » Deux images saisissantes, pardonnez-moi l'expression, mais prises sur le vif. Deux hommes aux prises avec une violente douleur, une violente souffrance. Le lépreux, on peut parler d'une maladie chronique, et puis Job et ses ulcères. On va y revenir. J'aimerais maintenant présenter deux observations, par l'exemple, à des souffrances bénignes. Alors, on a tous des petits maux, d'une manière ou d'une autre, soit liés à une pathologie ou peut-être à un accident passager. On appellera ça un incident. Et ces deux observations, c'est... Écoutez bien, parce qu'il y a une suite dans tout cela. Je ne dis pas ça pour parler et pour dire des mots, mais il y a tout un enchaînement. La poussière dans l'œil, ça vous est certainement arrivé. C'est pas grave, mais c'est violent et c'est très très désagréable. Et puis, si vous êtes marcheur, le caillou qui s'introduit dans la chaussure, ça vous rappelle des souvenirs? Et qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez une poussière dans l'œil, vous êtes obligé de vous arrêter. Quand vous avez un caillou dans la chaussure, vous êtes arrêté aussi. Et pourtant, c'est rien du tout. Vous n'allez quand même pas aller à l'hôpital pour ça. On est d'accord. Voilà. C'est les réactions que nous allons voir, que nous pouvons avoir. Alors, nous allons revenir à la lèpre, ce problème qui est souligné dans notre texte premier. La lèpre est une maladie, si vous me permettez, C'est une maladie qui porte sa destruction sur les terminaisons nerveuses, rendant le corps vulnérable à toutes les autres blessures. Ça, c'est ce que les médecins disent. Et finalement, c'est quelque chose de très, très handicapant, et nous allons voir pourquoi. On pourrait dire d'une autre manière que la lèpre insensibilise au mal et à la douleur. Penserait-on que c'est une bonne chose de ne plus, plus ressentir la souffrance ? Et certainement, une grande majorité d'entre nous pourrait dire « Ah, si je ne souffrais plus de mon mal !» Il y a le mal et le ressenti, on est bien d'accord. Et si on se disait « Bien voilà, finalement je suis malade, mais je ne souffre pas, je ne souffre plus, ou si je ne souffrais plus, ça serait quand même quelque chose formidable. » Ben oui, c'est peut-être un raisonnement. Mais cela... de ne pas souffrir comporte un danger plus redoutable encore. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est que le mal, si vous ne le sentez pas, il va continuer à faire son œuvre. Et il va entraîner des conséquences beaucoup plus graves, parce que ça serait une destruction inconsciente à ce moment-là. Je vais expliquer les choses. Dieu nous a créés avec un corps, et nous fonctionnons dans un corps, et ce corps a des sensations. Il y a deux formes que nous connaissons, elles font partie de la nature, c'est le plaisir et la douleur. Alors, le plaisir, on dit oui, la douleur, on dit non. Et les capteurs principaux que Dieu nous a faits, ce sont nos sens. Alors, il y a la vue, il y a l'odorat, il y a le goût, il y a l'ouïe, il y a le toucher. Et nous devons nous poser la question, mais comment fonctionnent ces sens ? Parce que c'est quand même Dieu qui nous les a donnés. Et imaginez-vous que quelqu'un perde un sens, enfin, l'oreille, le sens de l'audition, et ça devient une infirmité à ce moment-là. Et c'est quelque chose de très handicapant. On a découvert... parce que l'homme a fait des recherches naturellement et puis il est intelligent, on a découvert que notre corps est recouvert de cellules réceptrices de l'intérieur et de l'extérieur qui transforment en codes chimiques et électriques à notre cerveau qui, lui, interprète et réagit. Devant un danger, le cerveau nous indique immédiatement de nous arrêter. Bon, ça c'est le fonctionnement, je prends le détail. Mais vous allez voir que dans le corps de Christ, il y a des choses aussi extrêmement intéressantes, parce que ça fonctionne de la même manière, en quelque sorte. Et quand il y a un danger signalé, c'est à notre tête, et puis nous faisons ce qu'il faut pour écarter le danger, ou éviter ce danger. Et vous ne prenez pas une minute en disant « qu'est-ce que je vais faire ?» Vous avez la main qui brûle. Non, vous n'attendez pas qu'elle fume, hein. Vous le retirez aussitôt. C'est un petit peu le côté... bon, on sait comment ça se passe. La douleur, par exemple, est un signal. Et ça, j'insiste sur le mot « signal » parce qu'on n'aime pas souffrir, mais pourtant, il faut considérer comme tel. Un signal souvent violent, brutal, qui exige la priorité de défense où tout le corps se trouve immédiatement mobilisé. Quand je vous ai parlé de la simple poussière qui arrive dans l'œil, première chose que vous faites, vous arrêtez et vous mettez la main ici. Alors, vous voyez un peu, ça peut durer quelques minutes, et puis si ça perdure, ben, vaut mieux ensuite se faire soigner, ça c'est sûr. Mais ça vous stoppe, net, parce qu'on ne peut rien faire avec ça. C'est rien du tout, c'est un organisme de rien du tout, mais qui finalement va vous paralyser quelque part. Et ça stoppe le fonctionnement de l'ensemble de notre corps, parce qu'on ne peut pas supporter cela, parce que c'est une agression, parce que c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui fait du mal. Disons un mot sur les effets de la douleur. En une seconde, tous les circuits nerveux de notre corps sont en alerte et sont tendus sur le point névralgique, ma main qui se porte, ici, par exemple. Alors, nous avons à ce moment-là une réaction sanguine. Vous allez dire, il fait de la médecine ce matin, mais ce n'est pas ça. Il y a une réaction, le sang réagit. Et le sang réagit, par exemple, à la souffrance. On pâlit, on rougit. On s'évanouit, ou peut-être même on a des nausées, on vomit, on a des spasmes. Et sur le plan psychologique, la douleur influe et modifie notre comportement. Nous avons, et c'est là où ça nous intéresse en tant que chrétiens, nous avons des réactions d'agressivité. Nous pouvons avoir des réactions de découragement devant la douleur et la souffrance. Nous pouvons avoir des réactions, finalement, d'abattement, de négativisme. Même certains peuvent avoir des réactions de révolte contre Dieu et contre les autres. Alors ça, c'était pour les autres, mais aussi contre Dieu. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et je suis en train de démonter le mécanisme, quelque part, pour montrer ce que nous sommes et ce que Dieu veut nous apprendre. Non pas que, d'une manière humaine et psychologique, nous fassions les choses, mais que Dieu nous apprenne à avoir des réactions de foi dans tout ça. Et au lieu que la douleur et la souffrance détruisent notre foi, parce que nous connaissons ce processus et que nous y mettons Dieu dedans, c'est-à-dire que nous demandons l'assistance, le soutien de Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, il va y avoir tout un processus qui va m'amener véritablement à compter et à compter uniquement sur le Seigneur. Disons deux mots sur la répartition de la souffrance, de la douleur. Chaque partie de notre corps a un taux de sensibilité différent. Si vous avez l'habitude de marcher pieds nus, vos pieds seront endurcis et vous pourrez marcher comme ça. Moi, si vous me le demandez, je ne suis pas capable, je suis obligé de marcher avec des chaussures. Mais certains sont capables de le faire. Les lèvres sont très sensibles. Le dessus de la main, vous vous souvenez, mesdames, quand vous repassiez dans le temps, ma grand-mère, elle prenait toujours le fer, et puis parce qu'il y a une sensibilité extrême ici. Voilà. Que dire encore dans cette... l'extrémité des doigts, ça fait très mal, hein, vous savez. Les doigts, les ongles. D'ailleurs, le supplice chinois, c'est ça. Hein. Terrible. La pupille de l'œil, c'est une protection. Hein. On protège tout ça. Et puis, il y a bien d'autres endroits. Toute notre vie physique s'organise et s'équilibre entre les facteurs douleur et plaisir. Dieu nous a constitués comme ça. La question est de savoir quelle intensité est supportable. Et le taux d'intensité pour les uns n'est pas le même que pour les autres. On est bien d'accord. Pour vivre, je dirais, normalement. La douleur intense et permanente détruit. Le plaisir sans limite ravage. Parce qu'on pourrait se dire, oui, le plaisir c'est bien, pas de problème. Il faut être modéré dans notre analyse. Le plaisir donc, je dis, sans limite ravage, et mène aussi à la mort. L'un et l'autre mènent à la mort. On le voit. Et si nous imaginons une existence sans plaisir, eh bien cette existence serait un état végétatif et dénué de désir de vivre. Vous savez, quand on renferme des gens en prison pour la vie, hein, pas très épanouissant. Hein. À l'inverse, une existence sans douleur nous plongerait dans la destruction totale, faute d'être alerté à temps. Et en médecine, on appelle ça des symptômes. Et les symptômes sont faits pour alerter. Et après, on traite. Après, on fait ce qu'il faut. Donc, dans les deux sens, on peut dire qu'il y a quelque chose à prendre en considération. Car la première fonction de la douleur est d'être un avertisseur signalant les dangers qui nous menace dans un monde où la mort est omniprésente. Et c'est Dieu qui a voulu les choses comme ça. Ah, si nous étions restés dans le jardin d'Éden. Ah, ça aurait été une autre affaire. Mais comme nous sommes sortis, eh ben nous sommes livrés à la merci de tout ce qui peut y avoir. Finalement, porteur de danger, de mort, de péril, de menace et tout ce que vous voulez. C'est ça. Savons-nous que la douleur utilise toute une gamme de tonalités pour nous avertir. En quelque sorte, une sorte de téléphone interne qui prévient de ce qui ne va pas. Alors, on le vit, ça. Hein. Quand on commence à avoir des grattements dans la gorge, c'est que peut-être il y a une angine qui se prépare. Et quelquefois, on arrive souvent trop tard. Je le dis à l'adresse de ceux qui sont sensibles à la dépression, parce que je connais bien le phénomène. Et je sais que souvent, il y a des alertes avant une dépression, avec un état dépressif. Et combien de fois les dépressifs se font avoir parce qu'on ne comprend pas, on ne décode pas, on ne saisit pas les signes avant-coureurs. Et quand ça se déclenche, on se dit « oui, mais il y avait ceci et cela, et puis je n'ai pas fait attention ». Ça, c'est très subtil et c'est très vicieux, la dépression. Je vous dis ça parce que combien de fois les choses sont passées sans qu'on s'en aperçoive, et puis on est tombé dans un état de dépression. Alors, nombre de gens sont morts, nous pouvons dire, faute d'avoir été avertis par les symptômes douloureux d'une manière ou d'une autre. Et on pourrait dire que le téléphone interne n'a pas fonctionné et il est trop tard. On peut dire que les tonalités d'avertissement aussi sont diverses. Je dirais que la douleur chuchote, dans certains cas. C'est une gêne passagère. Je prends l'exemple de mon bras qui est engourdi. Et à partir, on appelle ça des fourmis dans les mains, comprenez, hein ? Alors j'ai cherché les fourmis, je n'ai jamais trouvé. Mais toujours est-il qu'on appelle ça comme ça. Alors qu'est-ce que je fais ? Intuitivement, c'est une gêne passagère, ça chuchote. Alors à ce moment-là, je change de position et je retrouve finalement le bien-être, un soulagement. Ça, c'est un murmure. C'est la douleur qui murmure. Il y a la douleur qui parle également. C'est la difficulté ou ce sont des difficultés de digestion répétées. Le malaise devient pesant. Alors à ce moment-là, je n'ai qu'une chose à faire, rectifier mon alimentation. Elle parle. Il y a quelque chose que un peu de sagesse dans cette affaire. Et puis il y a la douleur qui crie. C'est un danger immédiat et sérieux, la brûlure, la chute, le choc violent. C'est une alerte rouge à ce moment-là. Et je réagis par réflexe de préservation. Mon cerveau commande instinctivement. Et je ne peux pas me poser mille et une questions pour savoir ce que j'ai à faire. Vous voyez les grandes différences, la graduation de la réaction à la douleur. Au moyen de certaines souffrances, mon corps fait entendre un bourdonnement incessant d'avertissement, car le but voulu par Dieu, assigné à la douleur, et on sait combien on la déteste, la douleur, est de me garantir de périls encore plus grands. Peut-être maintenant, puisque nous y arrivons, et cette introduction est assez longue, mais peut-être maintenant, nous allons comprendre cette mystérieuse affirmation biblique quand il est dit dans le livre de Job « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et sépare. » Qu'est-ce que vous me dites ? Vous ne me dites rien, je continue à parler. « C'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Vous connaissez ce texte ? Je le relis. « Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. » Imaginez-vous que c'est Job qui a dit cela, lui qui était couvert d'ulcères et qui affirmait cela. Et le Seigneur sait si Job a été l'homme de souffrance et de douleur. Il en a quand même écrit un livre, 42 chapitres. Et s'il a dit ça, c'est pour les hommes de son temps, c'est pour les hommes de tous les temps et c'est pour les hommes de notre temps. Si dans certains cas la douleur ne jouait plus son rôle d'avertisseur, les dommages causés seraient irréversibles. Et je vais vous donner la preuve d'ici quelques instants. Pour autant que la souffrance est répugnante et révoltante, le plus grave reste quand elle ne se fait pas sentir, quand la douleur est absente. C'est de l'insensibilité. Et j'ai souvent entendu des hommes et des femmes qui sont venus pour que l'on prie pour eux, qui sont allés chez le médecin spécialiste cancérologue en disant « Voilà, j'arrive, mais je sais que j'arrive trop tard parce que je n'avais aucune souffrance, aucune douleur. » Si ça avait été pris à temps, si j'avais pu avoir les signaux, peut-être que les choses auraient été différentes. C'est comme ça. C'est terrible. Hein ? C'est terrible de passer. Alors à ce moment-là, on dit « Mais si j'avais eu des souffrances, si j'avais eu des douleurs, j'aurais fait quelque chose, mais je n'en avais pas. Je me sentais bien. » Ah oui, mais c'est une sorte d'anesthésie sournoise. Dangereuse, pernicieuse. Et je veux voir aussi celui qui est le grand manipulateur. Les lépreux, celui de l'évangile dont nous avons parlé tout à l'heure, il y en a un autre fameux lépreux, il s'appelle Naaman. Vous avez entendu parler ? Ah, il avait une double lèpre, lui. Une lèpre à l'extérieur et une lèpre à l'intérieur. Et Dieu lui a dit, on va commencer par l'intérieur. Il a dit, pas question, hein, moi je veux pas. Hein. Mais il a bien fallu qu'il y passe quand même. La lèpre de son péché, de son orgueil et puis sa réputation, enfin tout ce que vous voulez. Alors on s'aperçoit que les lépreux connaissent le dramatique problème inverse. Ils ne ressentent rien. La maladie ronge, la maladie fait son effet. Elle, finalement, fait disparaître toutes les sensations sur, normalement, les terminaisons nerveuses qui devraient les sensibiliser à ceci et cela. Ils deviennent insensibles au mal. Et j'ai lu une histoire qui se passe dans les léproseries des Indes, où les soignants doivent faire très attention aux lépreux, parce que le confort n'est pas le même que chez nous, ils sont couchés par terre, et dans ces établissements, il y a des rats. On n'aime pas trop ça, hein. Et le drame, c'est que ces lépreux s'endorment, et tous ces animaux qui... D'ailleurs, on les élève volontairement aux Indes, hein, vous savez bien comment ça se passe, hein, c'est terrible. Alors, ils se répandent dans les maisons, ils se répandent dans les établissements de soins, et les malades, le lépreux s'endort. Alors, les rats, la nuit, font leur effet et viennent grignoter quelquefois leurs membres et les extrémités du visage et toutes sortes de choses. Et quand ils se réveillent, finalement, il manque encore une partie, un doigt ou autre chose, parce qu'ils n'ont pas eu la sensibilité. Si vous avez des souris chez vous et qu'elles vous mordent le bout de l'oreille, vous allez voir, vous allez vous réveiller, hein. On les élève pas, hein. Mais toujours est-il que c'est ça le grand danger. C'est pour montrer que finalement, l'insensibilité est un danger. Et pourtant, on n'aime pas la douleur. Et Dieu l'a fait quand même pour que nous puissions réagir. Comment se défendre? Je pose la question. Comment se défendre en l'absence de souffrance? Grave problème. Comment être libre sans la douleur? Et pourtant, on dit souvent et on soupire... Ah, si je n'avais plus de douleur, si je ne souffrais plus, je serais libre. Mais on retourne la question. Dans d'autres situations, naturellement, comment être libre sans la douleur? Il y a un phénomène l'été, alors ça ne craint pas de nous arriver avec le beau mois de janvier que nous avons en ce moment, mais les moustiques, voyez, ça c'est très agréable la nuit, hein. C'est pourtant une petite bête de rien du tout, qui vient vous faire des petits bisous de temps en temps et qui laisse quand même des traces, hein, parce que vous passez une bonne nuit après. Ouais. Comment être libre? Alors, il faut qu'on soit piqué une fois, et puis après, on va à la chasse, avec la pantoufle. Et puis, on lui règle son compte. Et puis après, on ferme les fenêtres, on est tranquille. On était prévenu. Parce qu'après, si vous ne faites pas à celui-ci, il y a peut-être 10 qui vont rentrer, et le lendemain matin, je vous dis pas que pour venir au culte, dans quel état vous allez être. Hein. Enfin, c'est un petit clin d'œil que je fais. Hein. Maintenant, nous en arrivons aux applications spirituelles. Alors, écoutez bien. Ce que le corps physique nous enseigne, nous le retrouvons également dans l'Église. Et je parlerai de carence. Et je dirais que l'insensibilité dans le corps de Christ, l'insensibilité des uns avec les autres, des membres les uns avec les autres, c'est une carence, l'insensibilité. J'ajoute. La douleur... nous fournit un premier message, avertir, attirer l'attention, alerter. On est d'accord, c'est ce que nous avons dit. Elle produit son effet salutaire quand nous sommes avertis. Et si vous regardez dans toute l'histoire de la Bible, que d'avertissements, Ancien, Nouveau Testament, il n'y a que ça. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même pas mal. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et croyez-vous que Dieu nous avertit pour nous faire peur? Non, Dieu nous avertit parce que c'est un Père qui nous aime, et il ne veut pas que nous soyons détruits, que nous nous perdions. Donc, cela produit un effet salutaire, c'est un sursaut de préservation. Il est un autre enseignement découlant de la douleur, c'est qu'elle contribue à unifier tout le corps de Christ. Les souffrances et les douleurs au milieu de nous ne doivent pas nous diviser, mais nous unir. On est d'accord? Un doigt blessé, un organe malade dans le corps humain, et tout le reste se mobilise. Quand on s'est coincé le doigt dans une porte, qu'est-ce qu'on prend soin de notre petit doigt après? On n'ose plus toucher à quoi que ce soit, on le met dans un... Et il est... Vous voyez? On le soigne, on le regarde. Et c'est vrai que c'est handicapant, hein, mais on y fait attention à celui-là. Et c'est tout le corps, c'est tous les... On veille avec les yeux, on fait attention à ceci et cela, parce qu'on veut protéger celui qui est blessé, celui qui est malade. Une jambe, c'est pareil. Alors tout le corps, tout l'organe, tout l'organisme finalement se met en quête de protection. Quand on a un caillou dans la chaussure, vous avez vu l'adaptation que l'on a pour pas que ça porte de trop. On serait fou avoir un gros caillou dans la chaussure et continuer à marcher comme normalement. Alors à ce moment-là, on va prendre une attitude de boitillement. Oui, je vais pas aller très loin. Mais... C'est pour dire qu'on s'adapte à ce moment-là. Et tout le corps s'adapte parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a une douleur, parce qu'il y a un danger. Et là, quelle leçon pour chacun d'entre nous qui faisons partie du corps de Christ, parce qu'un frère, une sœur est malade. On ne va pas continuer à lui dire « avance, continue, avance, je te pousse, tu vas voir ». Pas du tout. On va prendre soin de lui, on va prier pour lui, on va faire tout ce qui est nécessaire, parce que c'est un frère, une sœur, et on va considérer qu'il est dans le corps de Christ. Les épîtres résonnent de cet appel. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, avec lui. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et dans le plaisir, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je vois que vous connaissez bien votre Bible, c'est formidable. C'est bien. Possédez la faculté d'entendre les gémissements, les cris dans le corps de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'important. Je dirais que c'est un corps qui fonctionne normalement. Si notre corps physique réagit solidairement et naturellement à ses parties malades, le corps spirituel présente une anomalie lorsqu'il n'entend rien, lorsque finalement il ne perçoit rien, lorsqu'il est insensible, lorsqu'il est indifférent aux douleurs de ses membres. Et là, c'est quand même quelque chose de grave au milieu de nous. Mon frère et ma sœur sont malades, bon, le Seigneur va s'en occuper, pas de problème. Non, vous allez voir que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ça met l'accent sur une activité spirituelle qui est certainement une des plus importantes dans l'Église, c'est la réunion de prière. Parce que dans la réunion de prière, nous faisons quoi? Nous prions. Et nous prions pour quoi? Nous prions pour les sauvés, pour les perdus, pardon. Nous prions pour les perdus, nous prions pour tant de choses, mais nous prions aussi pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. La réunion de prière, mes frères et mes sœurs, c'est une réunion essentielle dans la vie d'une église. Alors je vous y invite. C'est tous les mercredis soirs à 20h30. Je préfère faire les annonces tout de suite. Vous savez que c'est vivant, une réunion de prière, et ça, on se fait du bien. Je le dis au passage, on arrive souvent un petit peu, excusez-moi l'expression, on arrive un peu flagada, on est fatigué parce que vous avez votre journée, vous avez vos soucis et tout ça. Mais combien, quand on repart, on est vivifié. J'ai vu que les chrétiens étaient superbement vivifiés, parce que quand la réunion de prière est terminée, on parle dans la salle, on parle dans le couloir, on parle dans le premier couloir et on parle encore sur la rue. Donc c'est que vous n'êtes pas fatigué. Alors venez aux réunions de prière. Je fais des petits clins d'œil comme ça, mais... Non, mais il y a un message, c'est sérieux. Attention, c'est très sérieux. Alors... Nous voyons que ça, c'est une réflexion qui est importante. C'est une perte de conscience de sa propre unité quand l'Église ne fonctionne plus comme ça. C'est comme si je disais à mon pied, à ma tête, « Eh bien, vous ne faites pas partie de mon corps, je vous ignore. » Mais non. Toutes les douleurs dans l'Église sont permises par Dieu. Elles viennent souvent par notre propre faute. Elles viennent aussi par celui qui est le manipulateur et qui ne se gêne pas, finalement, de remettre de l'huile sur le feu. Mais je dirais que elles ne viennent pas de Dieu, elles sont permises. Il y a des choses qui sont comme ça. Pour éveiller en chacun la conscience et le sentiment de notre unité dans la solidarité. On est solidaire sur le plan économique dans une église. Mais il faudrait dire aussi qu'on doit être solidaire dans la souffrance de l'église, de ses membres les uns les autres. Et une prière qui est faite pour vous parce que vous êtes malade, un petit mot qu'on vous adresse avec une parole de consolation, d'encouragement, ça fait un bien immense. Vous ne trouvez pas? On est passé par là, et je peux vous dire que toutes les cartes postales, on les a gardées. Ah ouais, toutes les petites cartes d'encouragement, des lettres et toutes sortes de choses. Parce que c'était des frères et des sœurs qui partageaient avec nous, et ça c'est formidable. Alors je dirais que celui qui est en bonne santé apprécie la bonne santé et remercie le Seigneur. Et c'est parce qu'il est en bonne santé, Dieu lui dit, t'es en bonne santé, je te donne une bonne santé pour que véritablement maintenant tu remplisses ton rôle d'intercesseur. Sans oublier de regarder et de s'intéresser à celui qui a perdu la santé. Se préoccuper d'un frère ou d'une sœur malade donne toute la valeur à notre privilège et on apprend beaucoup de choses dans ce domaine. Et peut-être je dois me poser des questions. Suis-je un membre mort par indifférence, par ignorance volontaire, par désintérêt d'apporter ma contribution d'assistance aux membres souffrants que Dieu a placés à mes côtés? Ceux qui le touchent me touchent. On est d'accord là-dessus, frères et sœurs? Ceux qui le touchent me touchent aussi. Paul évoque un phénomène caractéristique des derniers jours. Il écrit à Timothée, les hommes seront, égoïstes dans les derniers jours, premier de la liste. Les hommes seront égoïstes, et un peu plus loin, il est dit quoi? Ils seront égoïstes, ils seront insensibles. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole qui le dit. Les caractéristiques de notre temps, dans le temps dans lequel nous sommes, malgré les belles professions, les belles déclamations de charité humaniste et tout cela, mais néanmoins, égoïste et insensible. Jésus de dire aussi, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alors c'est vrai que c'est un drame, parce que si elle se refroidit à l'extérieur, il ne faudrait pas qu'elle se refroidisse à l'intérieur. Et c'est malheureux, mais il faut bien dire que quelquefois c'est à l'intérieur que ça se refroidit. C'est terrible une chose pareille. Dois-je hésiter, me poser des questions, calculer pour compatir? Compatir, qui veut dire compassion, souffrir avec. Est-ce que je dois me poser la question? Ça doit être spontané. Les réactions du cœur, elles sont spontanées, mes frères et sœurs. Je ne dois pas dire, eh bien voilà, je dois consulter ceci, je dois aller voir mon pasteur pour savoir ce que j'ai à faire. Mais c'est le cœur qui parle quand on voit quelqu'un qui souffre. On n'a pas besoin de prendre un livre de théologie et puis même de prendre sa Bible et de dire, qu'est-ce que je vais faire? Pendant ce temps-là, l'autre, il souffre et il attend. Et si nous sommes remplis de l'Esprit, là, il n'y a pas de question à se poser, parce que c'est le Saint-Esprit qui impulse. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la compassion. Les souffrances d'autrui nous parviennent au travers des signaux discrets mais bien réels. Citons au passage la solitude de nos frères et de nos sœurs. Vous me direz, ce n'est pas une souffrance qui fait crier dans les rues, mais c'est une souffrance terrible. Ceux qui sont aux prises avec un état de tristesse permanent. Vous croyez que ce n'est pas une souffrance? Mais moi, je sais que le Seigneur peut changer la tristesse en joie. L'isolement, ceux qui sont en raison de l'âge ou en raison de la souffrance, l'isolement, la vieillesse, ce n'est pas une maladie, mais c'est aussi une souffrance pour certains. Il faut bien le reconnaître. Donc, c'est pour vous dire que, il y a des signaux qui sont très discrets. Mais ils sont là quand même, ils sont bien réels. Si nous continuons à vivre à 100 km/h, je suis encore très raisonnable par les temps qui courent. Si nous vivons notre vie à des vitesses vertigineuses, on ne comprendra rien aux autres. Parce que ça passe trop vite, ce sera nos affaires, ce sera nos intérêts, ceci et cela. Et vous savez, pour que l'Église fonctionne, il faut que nous ne marchions pas au rythme du monde, parce que c'est effréné et on va aller dans le mur, Mais il faut quand même quelquefois prendre un peu de recul et de dire, mais attention, qu'est-ce qui se passe autour de moi? J'écoute. C'est sûr que quand on ne vient plus aux réunions, quand on ne vient plus aux réunions de prière ou ceci et cela, on ne sait plus rien. Et puis vous ne trouverez pas les commentaires de l'Église dans le Figaro demain matin. Ça m'étonnerait qu'il y aurait une annonce pour dire un petit peu comment ça se passe. Alors, tout cela, c'est un ensemble de choses. Parce que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, il nous faut abaisser notre seuil de sensibilité à l'attente des autres, à leurs besoins. Et il y a quelque chose de formidable que Dieu nous a donné, c'est prier pour eux, parler avec eux, accueillir, écouter, les écouter. Alors quelquefois, on entend des gens qui nous racontent leur vie. Eh bien, si Dieu nous a placés pour écouter leur vie, il faudra écouter leur vie et puis leur dire ce qu'il faudra dire après. Mais ils ont besoin de se soulager, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de dire leur peine et leur souffrance. Ça, c'est de la sensibilité à l'écoute des autres. Le péril qui menace l'Église, c'est le train de vie endiablée, je l'ai appelé comme ça, qui fait qu'augmenter le volume sonore pour atténuer les appels de détresse gênants, le cri des autres. Alors on se dit, je suis occupé, j'ai ceci à faire, j'ai cela, etc. J'ai tant d'activités, j'ai tant de réunions à faire. Ouais, le Seigneur pourrait peut-être nous répondre, t'en fais un peu moins, mais t'écoutes davantage les autres. Peut-être, certainement. Nous réagissons comme ceux qui prennent de l'aspirine pour toutes les petites douleurs qu'ils ont. Dès que j'ai un peu mal aux dents, dès que j'ai un peu mal à la tête, dès que j'ai une petite douleur, là, par-ci, par-là, alors je me rue vers le tube d'aspirine et puis j'en prends. Ben vous savez, quand un jour il y aura un grand mal, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Parce que si vous criez au feu quand il y a une petite étincelle, le jour où il y aura l'incendie, c'est ça. Et je crois que, quelque part, nous étouffons la douleur qui nous environne pour ne pas être dérangés parce que nous avons notre petite vie confortable. On se souvient du sacrificateur, et bien ça vous allez vous en souvenir parce qu'on en a parlé vendredi soir, du sacrificateur et du lévite sur le chemin de Jéricho. Et vous savez, ces deux-là, hommes de la religion, hommes du judaïsme, ils ont vu tous les deux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Passe à outre. Ils sont passés outre. Eh bien, faisons attention que cette phrase, que cette expression ne soit pas aussi peut-être là où Dieu veut nous stigmatiser parce que tu es passé outre. Et on aura de bonnes raisons, frères et sœurs, pour ne pas s'arrêter sur le bord du chemin, sur le chemin des blessures des autres. Je suis trop pris. J'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. On trouvera toujours des réponses. Quelle a été l'attitude, et je vais bientôt finir, quelle a été l'attitude de Jésus face aux lépreux qui l'interpellent ? On l'a lu tout à l'heure. Un lépreux vint à lui et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Quelle est cette attitude du Seigneur ? Cet homme lui dit, et il le crie, et il le supplie, parce que se mettre à jour, c'est quand même une supplication. « Si tu le veux, tu peux. » Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus n'a pas répondu de la manière dont cet homme s'y attendait. Jésus d'abord s'arrête, il l'écoute, et en guise de parole, il fait un geste incroyable. Incroyable. Imaginez-vous qu'il va le toucher. Dernière chose à faire avec un lépreux, puisqu'ils sont réputés être contagieux. Je t'ai vu, tu es malade, mais tu te tiens un peu plus loin de moi, je vais faire quelque chose pour toi, mais tu t'approches pas. Mais Jésus fait le contraire, il s'approche, il l'écoute et il pose sa main sur lui. Il étendit sa main et le toucha pour nous dire que jamais parole au pluriel, jamais discours, sermon, n'égaleront la visite, le sourire, l'attention, l'écoute, le temps consacré, le geste d'amour, le geste de compassion. Ce que les gens attendent, c'est ce que Jésus a fait. Il le toucha. Il le toucha. Dans nos usages humains, on a quelque chose de sympathique, ça se fait dans tous les pays, chez nous ça se fait aussi, c'est serrer la main. Et quand vous serrez la main à quelqu'un, vous le touchez. Quand je serai président de la République, vous verrez. Ah, faut que j'attende encore 5 ans là, mais bon, vous verrez. Hein, bon, peu importe. Serrez la main. C'est une marque de salutation, c'est une marque d'accueil, c'est une marque de considération, c'est une marque d'amitié. C'est toucher l'autre. Et Jésus a touché le lépreux pour lui dire qu'il l'aimait. Et pourtant, quand on connaît l'arrière-plan de la lèpre qui est l'image, le symbole du péché, Jésus l'a touché. Et il l'a guéri. Le geste que nous faisons vers celui qui souffre. Ne dit-on pas que l'amour dans la peine, et quand l'amour est témoigné dans la peine et dans la souffrance, la personne qui reçoit ce geste dit toujours, ou l'écrit, « J'ai été touché de votre marque de ceci, cela. J'ai été touché par votre démarche. J'ai été touché par votre sourire. J'ai été touché par... » On emploie le mot « touché ». En conséquence, pour garder le contact, conserver la chaleur de la main qui touche, pour entretenir en nous cette sensibilité de l'esprit où exalte la compassion de Dieu, il existe un moyen non négligeable, ça s'appelle, et j'y reviens, la prière. Et la prière, nous pouvons la faire dans nos demeures, mais nous pouvons la faire aussi ensemble. Et une église où il y a des réunions de prière, où l'on prie, eh bien, c'est une église qui vit et qui continuera à vivre. Parce que dans une réunion de prière, je sais là ce qui se passe. Il y a les informations sur les uns et les autres, on le partage avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de savoir-vivre, beaucoup de tact. Et on porte tout ça ensemble, non pas pour se raconter les petites histoires et se faire du mal entre nous, mais les porter tous ensemble devant le Seigneur, dans un même cœur, dans une même âme. C'est ça la réunion de prière. Ne permettons jamais, frères et sœurs, à la lèpre de l'indifférence, à l'encombrement de nos vies surchargées, d'atrophier insidieusement les organes faibles de l'Église dans ce que nous leur devons, c'est-à-dire l'assistance, en d'autres termes, prier ensemble et prier avec eux et prier pour eux. Puis je conclue. N'est-ce pas parfois l'explication, lorsque Dieu ne répond pas à nos prières pour les autres? Lorsque Dieu semble oublier ce que nous lui avons demandé, dans ces moments-là, Dieu ne nous laisse-t-il pas un message? Ne nous fait-il pas entendre sa voix? Ne loue-t-il pas au bien portant, au solide, au vigoureux? Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Vous savez, comme à la multiplication des pains. Faites-le vous-même. Comme s'il disait encore... Moi, Dieu, je me tais. Moi, le Seigneur, j'ai entendu tes prières, mais j'attends. Je vous ai laissé un exemple à vous maintenant d'incarner mon amour en acte. Parce que si nous attendons tout du ciel et que nous avons la capacité de le faire sur la terre en faisant ce que Jésus nous a montré de faire, alors à ce moment-là, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas aller dans nos prières. Dieu nous dit, mais écoutez, eh bien, je vous ai montré. Et à ce titre, dans Matthieu chapitre 25, verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ou encore dans Jean chapitre 13, Jésus dit « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Mais le Seigneur est venu pour nous montrer un exemple et cet exemple, nous avons à le suivre. Vous attendez un miracle? Le Seigneur lui dit « Mais t'as qu'à le faire toi-même. Je t'ai montré. » Je t'ai rempli de mon esprit et de mon esprit qui est en toi, et bien doit pouvoir manifester mon amour à ces gens-là. Parce que c'est ça la force de la communion fraternelle. C'est ça de pouvoir dire « j'aime mon frère et ma sœur ». Et arrêtons quelquefois de mettre des préambules à nos actions ou à nos interventions en commençant par juger nos frères et nos sœurs. Ça casse tout, parce que le Seigneur n'est pas comme ça. S'il y a des choses sur lesquelles ils doivent se reprendre, ils vont se reprendre avec la grâce de Dieu. Mais là, ça fait partie de notre prière. Jonas, c'est pas mal ce garçon-là. Jonas, le prophète insensible, des centaines et des milliers de personnes allaient mourir dans une ville qui était condamnée par Dieu. Alors Dieu lui dit, tu vas aller à Ninive. Il lui dit, non, j'ai envie de faire un petit tour. Moi, je voudrais aller faire un petit tour à la conquête de l'Ouest. Alors il est parti dans l'autre sens. Et nous voyons que le prophète insensible a été censuré par Dieu, car il privilégiait son bien-être et ne voulait pas avoir aucun dérangement. C'est pour ça qu'il a dit au Seigneur, tu envoies qui tu veux, mais moi j'y vais pas. En isolant la souffrance dans l'Église, en organisant ce traitement systématique, comme on le fait avec toutes sortes de services qui reviennent, qui s'empilent les uns sur les autres, etc., etc., alors, en organisant le traitement de la souffrance systématique dans l'Église, en se déchargeant sur ceux qui souffrent par des expédients tels que l'argent ou autre chose, on parviendra à instituer une charité dépourvue de contact, de chaleur et de solidarité et de sensibilité. Mes frères et mes sœurs, rien ne remplacera le contact humain. C'est le cœur qui parle, c'est pas la technique. c'est pas les recettes, c'est pas ceci et cela. Excusez-moi, personnellement, je n'en ai que faire. Le Seigneur nous a donné un cœur, et avec ce cœur et rempli du Saint-Esprit, nous devons faire certainement encore autre chose. Mais aujourd'hui, même dans nos églises, on a institutionnalisé ce genre de choses. On protège mal, on soigne mal, on aime mal quand on ne sent plus rien. Si le corps de Christ souffre, s'il y a des rivalités, s'il y a des divisions, s'il y a des désunions, c'est peut-être parce qu'elle souffre, ou elle ne souffre pas plutôt, de ne pas assez ressentir et pas assez compatir. Alors que le Seigneur nous aide. La prochaine fois, nous avons parlé donc de l'insensibilité, nous parlerons de la sensibilité, voire de l'hypersensibilité au milieu du peuple de Dieu, qui là est aussi quelque chose d'extrême. Le Seigneur nous a demandé de tenir l'équilibre. Et il saura nous donner l'équilibre si nous voulons nous mettre à ses pieds et recevoir ses enseignements. Que Dieu nous bénisse. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que l'Église, ce n'est pas un rassemblement humain comme les autres. Ce n'est pas, Seigneur, une association d'hommes qui se plaisent à entendre des choses qui vont dans, eh bien, un plan ou un but commun. L'Église, c'est le corps de Jésus-Christ, un corps sensible, un corps qui doit être, en effet, rempli de cet amour qui vient d'en haut. C'est cet amour, Seigneur, que l'on appelle agapé, l'amour de Dieu. Celui qui a donné sans espoir de retour, celui qui a donné alors que nous ne méritions pas de recevoir. C'est cet amour-là, c'est cette qualité d'amour. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi de rester sensible. Donne-moi de rester sensible aux cris, aux pleurs, à la détresse. Peut-être dans un simple regard, Seigneur, qui appelle, qui interpelle. Seigneur, fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Et qu'ainsi, Père éternel, eh bien, c'est vrai, tu as voulu nous enseigner que nous avons besoin de nous tenir devant toi et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes de prendre conscience à l'importance de la prière pour les autres. La prière pour mon frère, ma sœur, la prière pour le perdu, la prière pour l'homme qui ruine sa vie dans l'alcool, dans la drogue, dans toutes sortes de choses. Quel regard puis-je porter sur lui? Alors, Seigneur, donne-nous ta grâce. Et puis, accorde-moi ta grâce, accorde-nous ta grâce, Seigneur, de prendre l'importance de nos réunions de prière, parce que nous ne sommes pas seuls, nous sommes plusieurs. Et nous unissons nos cœurs et nos voix pour dire, eh bien Seigneur, fais quelque chose pour mon frère et ma sœur qui souffrent. Délivre-la, délivre-le, libère-le, pardonne-lui, sauve-le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons et nous te remercions. Merci pour ta parole. Louange et gloire à toi, mon Dieu. Béni soit ton nom. Bénissez quelques instants, Seigneur, maintenant et passerons à... Voilà repas de Sainte-Seine. Louange et gloire à toi. Merci Seigneur Jésus.